Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. Pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous écoutez notre podcast, on va revenir sur 10 ans de révolution en Tunisie. Une révolution qui se poursuit, notamment dans le secteur des médias, comme on va le voir avec mes invités. Tout à l'heure, vous entendrez Malek Radraoui, qui après avoir été un des participants de Nawet, un forum devenu blog collectif d'opposition au régime de Ben Ali, a cofondé Inkifada, un site d'investigation dont il est le directeur de la publication. Vous le verrez, son expérience est riche et précieuse et le niveau d'exigence et de compétence des équipes d'Inkifada en a fait l'un des sites de référence parmi les médias numériques du pourtour méditerranéen. Mais d'abord, j'ai appelé un consultant en économie des médias pour dresser un état des lieux du paysage médiatique actuel en Tunisie.
L'atelier des médias.
Bonjour Ahmed Amin Azouzi.
Bonjour.
Vous êtes consultant dans l'économie des médias et des industries créatives. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment les médias tunisiens préparent-ils actuellement les 10 ans de la révolution ?
Alors, je pense que les médias, là, en ce moment, malheureusement, sont plutôt occupés à traiter des sujets relatifs au Covid-19, puisque la situation, malheureusement, sanitaire n'est pas forcément au beau fixe, là. De plus, il y a une instabilité politique qui fait que la majorité des médias s'occupent de cette question-là, plus que de la question du bilan des 10 ans de la Révolution, même s'il y a parfois quelques petites initiatives pour faire un récap, pour parler un tout petit peu de ce qui s'est passé sur certains sujets, principalement qui restent de l'ordre du politique, sur ces 10 dernières années.
Parlons un petit peu du paysage médiatique en Tunisie, qui a été totalement chamboulé. C'est-à-dire que les médias actuellement en Tunisie n'ont rien à voir, et le paysage médiatique n'a rien à voir avec ce qu'il était il y a 10 ans.
Ça n'a rien à voir, en effet. On le rappelle, hein, on était dans une dictature jusqu'au 14 janvier 2011. Juste avant, le secteur des médias était fortement contrôlé par le régime en place. Après la révolution, beaucoup de choses ont changé. Une explosion, on va dire, dans le nombre de médias qui sont numériques, audiovisuels ou écrits sur la place, qui ont un peu conforté l'idée qu'il y a une réelle liberté d'expression qui s'est installée dans le pays depuis le 14 janvier 2011. Mais il faut savoir que cette révolution, on va dire, de la liberté d'expression a été couplée par ce que le monde entier a vécu pendant les 20 dernières années et continue à vivre même aujourd'hui. C'est la révolution numérique et digitale dans le secteur des médias qui mettent un paysage face à plusieurs contradictions, c'est-à-dire qu'il y a une envie d'explorer des sujets qui n'ont jamais été explorés, mais qui font face aussi à une problématique de transformation digitale et des problématiques économiques qui font que malgré la multiplication d'acteurs, on reste dans un écosystème qui reste fragile économiquement.
On va revenir sur l'économie des médias. Il y a aussi quelque chose qu'il faut préciser. Vous disiez que les gens avaient envie, besoin de parler, une libération de la parole. On peut aussi rappeler qu'en Tunisie, ça s'est fait sur Facebook, que la Tunisie est un des pays au monde, sans doute, où il y a une des proportions les plus élevées de la population à être sur Facebook. Les derniers chiffres que j'ai trouvés, c'est qu'il y a environ 12 millions de Tunisiens et plus de 8 millions sont sur Facebook. C'est énorme.
Pour l'anecdote, parfois, pour la plaisanterie, on dit que les Tunisiens ne se connectent pas sur Internet, mais ils se connectent sur Facebook. D'ailleurs, c'est tout aussi vrai pour le secteur des médias ou d'autres secteurs comme le e-commerce, par exemple. La liberté de parole a beaucoup pris place sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook. Même s'il y a un léger recul du réseau social par rapport à d'autres comme YouTube ou Instagram. La liberté de parole s'est développée sur Facebook, et comme on le vit par ailleurs dans le monde, hein, comme les élections américaines de 2016, Facebook a été aussi problématique, parce que la Tunisie a vécu le phénomène des fake news un peu avant le monde entier. C'est-à-dire que nous, en Tunisie, nous avons vécu des problématiques de désinformation fake news depuis la campagne électorale de fin 2011. C'est-à-dire que ce sont des problématiques que nous avons vécues. Même si ça a amélioré entre-temps, ça reste quelque chose d'assez central aujourd'hui dans la communication médiatique, et il y a une forte dépendance des médias et de la, on va dire, ce qu'on appelle le marketing des médias pour le réseau social Facebook.
Alors justement, les médias en Tunisie réussissent-ils à repenser leur modèle économique qui est historiquement, mais comme un peu partout ailleurs, principalement basé sur la publicité? Y a-t-il des tentatives de diversification ou des médias en Tunisie qui essayent de faire payer pour l'information en ligne, par exemple?
Cela reste très très compliqué pour deux raisons. La première raison, c'est que le Tunisien n'a pas eu l'habitude de payer pour le contenu, quel qu'il soit un contenu journalistique ou un contenu de divertissement ou un contenu culturel. Donc ça reste quelque chose qui n'est pas forcément dans les habitudes du Tunisien. Et deuxièmement, pour l'instant, ça n'a pas été fortement exploré comme option. Ça s'est fait sur certains médias de niche, du type information économique et financière, mais ça ne s'est pas vraiment développé. Enfin, d'autres modèles ne se sont pas réellement développés entre-temps. Sachant que, comme vous le dites, le modèle publicitaire, aujourd'hui, s'essouffle fortement en Tunisie. Le marché publicitaire a fortement stagné les dernières années, même avant la crise du Covid. Donc, c'est quelque chose qui reste assez problématique. Les médias n'ont pas réussi forcément à revoir leur modèle économique. Certains, principalement les leaders aujourd'hui, du type Mosaïque FM, qui est la radio la plus écoutée et qui a la plus forte audience, arrivent aujourd'hui à être aussi un acteur du numérique. Donc, arrivent à diversifier toujours dans un contexte publicitaire, entre la publicité audiovisuelle vers la publicité numérique. Mais aujourd'hui, on ne voit pas émerger de modèles du type paiement avec des paywalls sur la presse écrite numérique ou avec des abonnements sur les médias audiovisuels.
Chose intéressante, puisque vous mentionnez Mosaïque FM, c'est qu'il y a 10 ans, Mosaïque FM, c'était une radio de divertissement et de musique, et qui a évolué et qui, sur laquelle maintenant on peut entendre de l'information politique, économique.
Effectivement, Mosaïque FM a su s'adapter à l'évolution des attentes des auditeurs. Les auditeurs de Mosaïque FM en 2011, quand ils avaient 25 ans, aujourd'hui ils ont 35-40, donc avec des attentes différentes. Donc c'est ce qui est commun dans toutes les radios qui ont un fonctionnement économique normal, c'est une adaptation avec le vieillissement des audiences. Donc effectivement, Mosaïque aujourd'hui maintient des émissions de divertissement pour capter de nouvelles audiences jeunes, mais aussi propose aux audiences qui ont cette attente nouvelle, qui est parler de politique, parler de l'actualité du pays, avec des émissions assez reconnues dans le pays, comme le Midi Show, qui est une émission politique de référence aujourd'hui dans le pays.
Il y a par contre quelque chose qui n'a pas changé en 10 ans, c'est la confiance que les Tunisiens ont dans les médias. Selon un sondage réalisé en 2020 par Bar Alaman Research Media, il y a 2 Tunisiens sur 3, 66%, qui disent avoir peu ou pas du tout confiance dans les médias. Donc en fait, on se rend compte que la diversification des canaux d'information n'a pas permis de redresser l'image que les Tunisiens se font des médias.
Effectivement, je pense que malheureusement, cette situation est fortement liée à la question de la qualité du contenu, premièrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour des raisons, multiples raisons, notamment la raison économique dont on a parlé tout à l'heure, les médias n'arrivent pas aujourd'hui à proposer une information de qualité. On souffre un peu du desk journalisme ici, c'est-à-dire que beaucoup d'informations ne sont que du copier-coller de communiqués officiels ou d'informations qui circulent sur Facebook. Donc il y a un vrai problème de qualité de l'information, premièrement. Et deuxièmement, il n'y a pas eu d'effort collectif, qu'il soit provenant du public ou du privé, pour le développement du secteur, que ce soit d'un point de vue économique ou d'un point de vue qualitatif, comme je le disais tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que c'est un secteur qui fait, on va le dire, peur. que ce soit aux politiques ou aux décideurs. Au vu de la situation dans laquelle il était avant 2011, peu de décideurs se sont attaqués à ce secteur-là en ayant peur justement d'être accusés de censure ou de retour en arrière en termes de liberté d'expression. Et c'est ce qui s'est passé typiquement dans l'audiovisuel public, que ce soit la télévision ou la radio, où il était extrêmement difficile, voire impossible, de réellement réformer le public, l'audiovisuel public en Tunisie, pour des raisons politiques, syndicales et aussi économiques.
Les médias publics n'ont pas aussi joué le rôle qu'ils auraient pu avoir en montrant l'exemple, en produisant des contenus de qualité, en fait.
D'ailleurs, c'est ce qu'on attend généralement de l'audiovisuel public, c'est-à-dire que c'est à l'audiovisuel public de mettre les standards de qualité journalistique et de contenu. Malheureusement, pendant 10 ans, il a été très complexe de réformer ces secteurs-là publics. Comme je le disais, pour des raisons politiques, on ne peut pas toucher à faire une réforme au sein de la télévision ou la radio publique parce qu'on risque d'être accusé de essayer de monopoliser la parole ou de reprendre les anciennes pratiques de Ben Ali avant 2011. Et de l'autre côté, il y a aussi, comme je le disais tout au début, la problématique numérique. Aujourd'hui, ce sont des entreprises, qu'elles soient la télévision ou la radio, qui ont fait une transformation numérique qui reste très prudente et très timide par rapport aux exigences de notre temps.
Parlons un petit peu des réussites sur le numérique de la part de médias qui ont fait de l'investigation, du long format. Parlez-nous d'Inkifada et de ce que ça représente en Tunisie.
Alors, Inkifada représente, c'est un des médias majeurs d'investigation dans le pays. Il a existé depuis il y a quelques années, qui propose de faire des formats longs. Chose qui est assez rare, ils ne sont que deux à ma connaissance qu'ils font, c'est Inkifada et Nawet, qui proposent des formats longs, des vrais formats d'investigation sur et des contenus qui sont écrits sur plusieurs mois afin de trouver des éléments qui ne sont pas du tout traités par les médias autres, qu'ils soient audiovisuels ou numériques de base. Typiquement, Inkifada a fortement travaillé sur, par exemple, les Panama Papers il y a quelques années, lorsque le scandale a éclaté et qui a été traité par plusieurs médias de par le monde. En Tunisie, le cas de Panama Papers a été traité par Inkifada.
Donc, il y a ces sites-là, mais il y a aussi des voix qui naissent et qui se développent sur les réseaux sociaux encore, et notamment sur YouTube, avec des YouTubers.
Absolument. De plus en plus de jeunes aujourd'hui se réorientent, délaissent Facebook et s'orientent aujourd'hui sur YouTube ou Instagram. Et il y a une forte émergence depuis 2-3 ans de création de contenu assez créatif, assez intelligent, très différent de l'offre médiatique traditionnelle. Et comme tous les pays du monde, nous avons une liste de youtubeurs, influenceurs qui créent du contenu, qui sont très suivis. Et ce qui est très intéressant, c'est que plusieurs d'entre eux, c'est pas forcément le cas tout le monde, mais plusieurs d'entre eux aujourd'hui proposent un contenu de qualité. C'est un contenu qui explore des sujets qui peuvent être sensibles, des sujets de culture générale, des sujets parfois d'analyses politiques différentes vues par les jeunes. Et tout ça, c'est en train d'émerger et d'intéresser de plus en plus la jeune génération qui, du coup, est en train de délaisser les médias traditionnels pour s'orienter vers ces médias nouveaux qui sont en train d'émerger, qui ne sont pas encore totalement structurés. Je pense que ça va venir à un certain moment, mais qui démarre une nouvelle ère, on va dire, dans les médias en Tunisie.
Il y en a un, par exemple, qui doit avoir la vingtaine, qui s'appelle Must Last, et qui, en arabe tunisien, vulgarise sur des sujets de société ses 50 000 abonnés sur YouTube.
Absolument. Il essaie d'expliquer des sujets de société, sociologiquement, politiquement, pour vulgariser pour les jeunes, pour ses pairs. Il n'est pas le seul. Il y a typiquement Hormologie, il s'agit d'expliquer les sciences à travers des extraits de cinéma et de la science-fiction telle que vue dans le cinéma. Il essaie d'expliquer des concepts scientifiques. Et ça reste quelque chose de nouveau et de très intéressant pour les jeunes. On est en train de leur proposer quelque chose de différent, d'intelligents aussi, et dans un format qui les intéresse le plus.
Donc la révolution est encore en cours dans le paysage médiatique tunisien.
Absolument, elle n'est absolument pas finie, elle est en cours. Comme je le disais au début, la révolution, elle est déjà mondiale, quand il s'agit du secteur des médias, elle est double en Tunisie, donc elle est en train de continuer. Je pense que d'ici 5 ans, on n'aura absolument pas le paysage qu'on connaît aujourd'hui. Parfois, on se dit tant mieux, mais il faut faire attention au vu du contexte global du pays pour que on maintienne cette liberté d'expression, de temps, et qu'on laisse la possibilité à l'émergence de nouveaux formats ou de nouveaux contenus qui n'ont pas été encore explorés les dernières années, alors que je pense que les Tunisiens, comme vous l'avez remarqué, en ont certainement besoin.
Merci beaucoup à vous, Ahmed Amin Azouzi.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes consultant dans l'économie des médias et des industries créatives. À bientôt dans l'atelier des médias.
À bientôt, au revoir.
Durant cet entretien, on a évoqué le site Inkifada, qui est une référence en Tunisie quand on parle de journalisme d'investigation, d'enquête multimédia. Malek Radraoui est l'un des cofondateurs et le directeur de publication d'Inkifada.com. Malek est de ces personnes avec lesquelles on a toujours plaisir à échanger. Aussi, la plaie pour les 10 ans de la révolution tunisienne était une évidence. Bonjour Malek Radraoui.
Bonjour Steven.
Tu es le cofondateur et directeur de publication d'Inkifada. Première question, j'aurais envie que tu te souviennes et que tu nous dises où tu étais et comment tu as vécu le 14 janvier 2011.
Alors, c'est drôle parce que le 14 janvier 2011, j'étais en train de récupérer mes bagages à l'aéroport de Roissy. Je rentrais d'un voyage en Égypte où j'ai rencontré Franck Larue, qui était le rapporteur spécial des Nations Unies sur la question de la liberté de la presse. Il y avait une réunion de prévu en Tunisie et il a été refusé d'accès au pays à l'époque par le régime de Ben Ali. Et du coup, la réunion s'est faite en Égypte. Et donc, le 13 au soir, on a assisté au dernier discours de Ben Ali dans un café au Caire avec des amis qui étaient en première ligne déjà de préparation pour la manif du 25 janvier au Caire. Et le vendredi, je devais rentrer à Tunis depuis le Caire via un passage à Paris. Et quand je suis arrivé à Paris pour prendre mes affaires et prendre mon avion à Tunis, l'espace aérien tunisien a été fermé. Et j'ai dû vivre un peu cette dernière journée presque à l'aéroport, au téléphone avec les amis qui étaient à l'avenue Ahmed Bourguiba.
Et à l'époque, tu étais déjà un des contributeurs de Nawet, donc un blog collectif, qui s'opposait déjà depuis plusieurs mois, plusieurs années même, à la censure sous Ben Ali. Explique-nous cette époque-là et ce groupe de personnes. Qui étiez-vous et que faisiez-vous ?
Absolument. Alors Nawet est un blog collectif à l'époque, une sorte de forum, un peu de discussion, comme il en avait un certain nombre à l'époque. C'était un peu le seul espace de liberté possible, Internet, à l'époque où le pays était déjà bien fermé par la police politique, l'appareil de censure et de propagande. Et donc Nawet, c'est un groupe de blogueurs, d'activistes lancé en 2004. Moi, j'ai rejoint cette équipe à peu près en 2005, au début comme un contributeur, et petit à petit, je me suis impliqué un peu plus sur cette plateforme et avec les amis fondateurs, Samy Ben Rabbi et Aliad Gelfelli, on a développé un peu cette plateforme pour qu'elle devienne en 2010 un peu la plateforme qui a été celle qui a accompagné un peu ce mouvement de protestation qui a commencé sur Internet dès déjà les années 2006-2007 et a documenté les exactions, les dépassements, les prisonniers politiques aussi en Tunisie. Et 2010, Nawet était au cœur de la documentation du mouvement social et du mouvement de protestation depuis le premier jour, le 17 décembre. On travaillait avec beaucoup d'activistes qui étaient sur le terrain, qui nous renvoyaient des vidéos, des images, des informations, et à travailler avec mes amis, on a fait en sorte que ces informations soient recoupées, vérifiées et disponibles sur toutes les plateformes, YouTube, Facebook et sur notre site, pour informer les Tunisiens qui étaient complètement maintenus dans le noir. Les médias tunisiens ne parlaient pas vraiment de ce qui se passait en Tunisie, et à part les médias étrangers qui n'étaient pas aussi très bien informés, du moment qu'ils ne pouvaient pas envoyer de correspondants sur place, se basaient beaucoup sur ce travail qu'on faisait à Nouette, Jazeera, France 24 à l'époque. On a joué un peu ce rôle d'intermédiaire, on va dire, entre les images qui venaient du terrain, de la rue, et les médias internationaux et la communauté internationale.
Et après, dans les années qui ont suivi, eh bien, tout ce groupe-là, en tout cas une partie des personnes qui étaient dans Nawet, eh bien, ont souhaité aller plus loin, ou en tout cas passer à une autre étape, mais continuer à œuvrer pour la liberté de la presse et la liberté d'expression en fondant l'association Al-Rat.
Alors, pas tout à fait. En 2011, donc, c'est Nawet qui a été constitué légalement en Tunisie, parce que Nawet était un projet virtuel avec des géré par des personnes qui étaient dans la diaspora pour la plupart. Et donc en 2011, on est rentré à Tunis, chacun de son pays. Moi, je vivais en France à cette époque-là, donc je suis rentré en Tunisie. Et donc on a créé officiellement Nawet en Tunisie dans un premier temps. J'étais parmi ceux qui ont installé et créé l'association Nawet en Tunisie, mis en place la première rédaction professionnelle, on va dire, de ce média. Donc structurer un petit peu ce projet, le professionnaliser. Et Nawet a joué un rôle, elle continue d'ailleurs de jouer un rôle comme un média indépendant qui œuvre bien sûr sur des questions fondamentales qui sont la liberté de la presse, la liberté d'expression, mais aussi un rôle d'information, un rôle de vérification de l'information. C'est juste que moi, en 2013, avec certains des collègues de Nawet, on a éprouvé un besoin de prendre un peu plus le temps, en fait, prendre un peu de recul sur ce qui se passait et réfléchir à un média qui soit plutôt dans du long cours, enfin, une temporalité un peu plus longue, et qui met aussi la technologie, le design, c'est-à-dire la manière avec laquelle on produisait du contenu au cœur d'un projet éditorial innovant à l'époque. Et donc, c'est là où l'idée de Inkifada est née. Et donc, on est sorti de Nawet en 2013 pour créer Inkifada, qui a été lancé en juin 2014, et qui est plutôt, avec cette offre éditoriale, de se dire qu'on va faire du journalisme de qualité au service des questions sociales, bien sûr, jouer pleinement un rôle de contre-pouvoir, mais miser sur la qualité du contenu, sur la qualité de la réalisation de ce contenu, et travailler aussi sur les outils technologiques qui permettent une meilleure diffusion de ce contenu.
Et juste pour nos auditeurs, Inkifada, c'est la contraction entre Intifada, donc le soulèvement, et Ink, qui veut dire l'encre en anglais, donc le soulèvement par l'encre. L'idée aussi, on peut le rappeler, c'était donc qu'il y ait ces formats d'investigation et que ces contenus d'information soient gratuits. Pourquoi est-ce que la gratuité était fondamentale ?
Alors justement, dès le départ, la réflexion sur le business model du média avait cet impératif justement que le média reste accessible et gratuit. Alors tout simplement parce que ce type de contenu n'existe pas, n'est pas commun en Tunisie. Malheureusement, un des échecs, on va dire, de cette transition démocratique a été la qualité de l'offre en termes d'information. Alors en 2011, bien sûr, c'était un désert. Les médias en place étaient des médias plutôt de propagande très peu crédibles, et sur les 10 dernières années, il y a très peu d'initiatives qui ont œuvré justement pour produire du contenu de qualité, vérifié, crédible. Et donc on voulait pas en fait que cette offre un peu c'est-à-dire de qualité soit réservée aux personnes qui peuvent payer. Alors dans le pays, bien sûr, les moyens de paiement en ligne ne sont pas encore super développés. La culture de payer pour du contenu n'est pas encore très développée aussi. Et donc, l'idée pour nous était d'éviter de faire un média du privilégié quelque part et de créer une autre fracture dans la société tunisienne, de se dire que les gens qui ont les moyens de payer vont accéder à une information de qualité et les autres pas. Donc ça fait partie un peu de notre mission de faire en sorte que la qualité soit accessible aussi à tout le monde.
Et vous avez réussi, puisque vous avez fait de nombreux succès, de grosses enquêtes qui ont eu de l'impact. Vous avez notamment participé à des grandes enquêtes internationales avec des consortiums comme les SwissLeaks ou les Panama Papers. Peut-être qu'on pourrait parler un petit peu des quelques enquêtes qu'il y a sur la home d'Inkifada actuellement. Par exemple, il y a une enquête sur les réseaux de trafic de migrants en Libye.
Oui. Alors justement, Inkifada est depuis maintenant, bien sûr, un lieu où il y a où les journalistes de la rédaction produisent du contenu, mais aussi un lieu où des journalistes professionnels, des journalistes d'investigation de toutes les nationalités peuvent nous proposer des articles et des enquêtes que nous encadrons et que nous finançons des fois aussi dans d'autres pays. La Libye, c'est un pays très important pour la Tunisie parce que beaucoup des questions liées à la sécurité en Tunisie, liées à la question des frontières, liées à la question du terrorisme, sont étroitement liées à ce qui se passe en Libye. Donc comprendre un peu les dynamiques, surtout ce qui se passe dans ce pays-là, est très important pour nos lecteurs, dans un premier temps. Aussi, les questions migratoires, en général, font partie des obsessions de Inkifada. Nous travaillons beaucoup sur ces questions-là. Et donc, cette enquête a été proposée à Inkifada et nous avons accompagné ce travail d'enquête et de vérification derrière. Et aujourd'hui, c'est un travail qu'on trouve assez remarquable, superbement illustré d'ailleurs par une artiste tunisienne qui s'appelle Yasmine Ben Khalil et qui a eu beaucoup de retours en fait ici et aussi en Libye. À travers d'organisations qui, à travers les traductions qu'on a faites de l'article, on a eu beaucoup de témoignages derrière de personnes victimes de ces réseaux-là ou qui peuvent témoigner. Donc je pense que c'est un travail que nous allons un peu continuer dans le temps. Nous traitons beaucoup des questions aussi des traites, en fait, que ce soit en Tunisie ou dans d'autres pays. Donc cet article était parfaitement cohérent par rapport au sujet qui nous intéresse.
Précisons d'ailleurs pour nos auditeurs qu'Inkifada existe en français et en arabe.
Et en anglais, depuis quelques mois, oui.
Très bien. Autre contenu également qui a attiré mon attention, c'est une série intitulée « Gens suspects » qui retrace des parcours en se basant sur des fiches établies par les services de renseignement français en Tunisie entre les années 1910 et 1930. Objectif, comprendre l'expérience coloniale à travers le prisme sécuritaire et donc en plongeant dans les archives nationales tunisiennes. C'est passionnant.
Ah oui, c'est une série vraiment passionnante qu'on fait en collaboration avec une chercheuse, justement une historienne. L'idée de départ était ça, justement, aborder la question de la colonisation à travers un angle assez inédit et de comprendre un peu les dynamiques locales, les dynamiques d'époque d'ailleurs, pas seulement en termes sécuritaires par rapport aux colonisateurs qui étaient l'armée française, mais aussi comment la population locale s'organisait, comment le pouvoir local en fait s'organisait, et qu'est-ce qui était considéré comme suspect à l'époque. Et ça en dit beaucoup sur les dynamiques de collaboration aussi entre les populations locales et le colonisateur. Donc c'est une série qui a eu énormément de succès depuis. D'ailleurs, ça nous a même surpris. On ne pensait pas qu'un article historique pouvait avoir autant de vues et de réactions. Et donc, ça sera une série régulière sur Inkifada. Tous les mois, on explorera l'histoire d'une nouvelle personne suspecte et on essaiera de comprendre les dynamiques qui ont mené à ça. Il y a un autre travail aussi, une autre série qui s'appelle « Les dessous des dates » et aussi qui va essayer d'explorer à travers des récits personnels des dates importantes dans l'histoire du pays. Donc là encore, on a identifié un manque de travail historique, que ce soit les 10 dernières années, mais sur les 60 dernières années, l'histoire a été un enjeu politique en Tunisie, que ce soit pour Bourguiba, pour se glorifier lui-même, pour Ben Ali derrière, pour diminuer le rôle de Bourguiba, et on a toujours été dans une histoire très politisée. Et on essaie aujourd'hui de redécouvrir certaines dates, certains faits historiques, mais à travers une approche plutôt historienne, oui. en se basant sur des documents d'archives et en essayant d'avoir une lecture un peu plus froide, on va dire, de certains phénomènes.
Pour essayer de redécouvrir certaines dates, eh bien, il y a évidemment cette date du 14 janvier 2011 qui est l'objet d'une série sous forme de podcast, puisqu'on parlait d'expérience narrative, de format. Inkifada évidemment fait du podcast et il y a ce podcast « Tu étais où le 14 janvier 2011 ?» Je crois que vous devez en être à une douzaine d'épisodes. Cela fait un an que vous déclinez et que vous sortez régulièrement des épisodes. L'objectif derrière tout ça, c'est quoi ?
Alors oui, cette série, elle est très importante aussi pour nous parce que c'était déjà la première série de notre offre de podcast. La plateforme Inkifada Podcast va être lancée d'ailleurs ce mois-ci, à la fin du mois. Et donc ça va être une plateforme qui va offrir des séries de documentaires sonores, du long format, d'enquêtes ou de narration sous format podcast. Et cette série du 14 janvier, en fait, l'idée, c'était de revisiter cette date historique. Il y a ces images de l'avenue Habib-Bourguiba, mais revisiter, en fait, cette journée à travers les récits personnels de gens qui ont vécu cette journée-là. Et c'était aussi une sorte d'enquête historique parce qu'on a essayé de comprendre qu'est-ce qui a fait basculer cette journée-là, d'une journée de protestation comme on a eu quelques-unes avant le 14 janvier, et qui a fini par la chute de ce régime, et on découvre qu'un enterrement qui a traversé l'avenue Habib-Bourguiba a embrasé en fait cette manifestation, et on a eu cette confirmation de plusieurs personnes qui ont vécu cette même journée, et ça nous a permis de recouper un petit peu ces récits-là. Et d'ailleurs, pour le 14 janvier, justement, pour l'anniversaire, le 10e anniversaire de la Révolution, on offre à nos lecteurs un circuit sonore dans les rues de Tunis qui leur permet, à travers leur téléphone, de suivre un parcours et de s'arrêter à des points historiques importants qui ont été cités dans la série de podcasts et de pouvoir écouter certains extraits, des bonus, du contexte aussi par rapport à ces lieux-là. Et donc, nous donnons rendez-vous à nos lecteurs et nos auditeurs le 14 janvier pour cette expérience inédite.
Je vais justement proposer aux auditeurs d'en écouter un extrait.
Batna, quel format différent, maladaire, qui tous le jour en tarabé de l'Olympique, très bâcher, bien taille. Mais moi, je vous lisais infiltré comme d'habitude. N'arrête, ça avait l'air cool, que limite, t'as le droit que.
Voilà, donc c'était un extrait sonore du 14 janvier 2011 à écouter, un podcast à écouter sur le site d'inkifada.com.
Alors juste peut-être une petite, si tu me permets Steven, c'est par rapport au podcast. Alors je voulais dire, et c'est important, que nos podcasts sont en général en langue tunisienne, en dialecte tunisien, un peu mélangé français, arabe et tunisien, mais que tous les podcasts sont sous-titrés sur notre site, et c'est ce qu'offre notre plateforme d'ailleurs. Donc vous pouvez écouter ces podcasts-là et activer les sous-titres en français et en anglais, et en arabe littéraire d'ailleurs pour ceux qui comprennent pas le dialecte tunisien. Donc c'est aussi une des expériences qu'on offre sur cette plateforme de podcast.
Faire du journalisme de qualité dans différents formats comme cela, du podcast, de la vidéo même parfois, cela coûte cher. Où en est Inkifada financièrement parlant ?
Alors Inkifada donc est un projet de l'association Al-Khat, comme on le dit. C'est donc la structure mère et cette ONG tunisienne qui est à but non lucratif et qui a eu dans un premier temps et continue d'ailleurs à avoir du financement. Pour le lancement d'Inkifada, on a eu un financement européen à travers un projet qui s'appelait Iptikal à l'époque, géré par Canal France International, CFI. Et depuis, on a mis en place un ensemble de services, principalement axés sur de la formation et du conseil éditorial, donc la formation destinée aux journalistes ou du conseil éditorial pour des structures médiatiques en Afrique du Nord, mais dans la région MENA en général. Et l'autre grande partie de nos revenus vient des services liés à la technologie. Donc nous avons un lab de développement et de recherche qui fait des sites internet, des applications mobiles, des besoins spécifiques, mais aussi du machine learning en arabe, enfin d'essayer d'explorer un peu l'intelligence artificielle, des systèmes de mesure d'audience un peu poussés, destinés, spécialisés, on va dire, dans l'univers des rédactions web. Et aujourd'hui, avec ces services, on arrive à assurer à peu près 60% des besoins de la structure. Les 40 autres pourcents proviennent encore de fonds. Nous comptons dans les années à venir réduire cette participation, on va dire, à une vingtaine de pourcents à peu près, pour assurer la majeure partie de nos besoins par nos propres moyens.
C'est ce que l'on peut vous souhaiter. Malek Radraoui, dernière question. Depuis 10 ans, de quoi es-tu le plus fier dans ces projets professionnels ?
Alors bien sûr, je pense que c'est drôle parce qu'il y a certainement l'implémentation de Nawet à Tunis en 2011, quand l'administration était encore en ruine, enregistrée un média qui a été la bête noire du régime et qui a été censuré jusqu'au 13 janvier 2011 d'ailleurs en Tunisie, était une source de satisfaction personnelle. Et bien sûr, la création de Inkify, qui est aujourd'hui un projet qui a pris de l'ampleur. On est 35 personnes aujourd'hui dans cette structure. C'est un média qui a su être partenaire avec les plus grandes institutions médiatiques au monde. On est membre permanent de la SAIG aujourd'hui. Je pense que ce sont les deux choses qui sont les plus valorisantes sur les 10 dernières années. Donc, construire des médias, enfin fonder des médias, les faire vivre, les faire grandir, est une source de satisfaction qui reste intacte d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui.
Merci beaucoup Malek Radraoui.
Je t'en prie Steven, merci à vous.
Je rappelle que tu es cofondateur et directeur de publication d'Inkifada. Plus d'informations sur inkifada.com. À bientôt Malek.
À bientôt, merci.
C'est bientôt la fin de cette émission et comme chaque semaine, Mondo Blog Audio fait entendre les blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Bonnie Ruben vit à Abidjan. Il dénonce les coupures d'internet ou des réseaux sociaux décidées parfois par certains dirigeants africains, notamment à l'approche d'élections, quand ils se sentent menacés et qu'ils disent avoir peur de la diffusion incontrôlée de rumeurs. Notre blogueur réfléchit à des solutions viables pour y faire face en Côte d'Ivoire, par exemple par des collaborations entre citoyens et médias ivoiriens pour mieux vérifier les informations.
Durant cette dernière décennie, l'Afrique est passée championne de la coupure d'Internet ou des réseaux sociaux. L'argument choisi est le suivant. Ces coupures sont nécessaires pour lutter contre les infox et préserver l'ordre public en période électorale. Des dizaines de millions de citoyens ont été privés de communication virtuelle pendant plusieurs heures ou plusieurs jours. Concernant la Côte d'Ivoire, il y a quelques années, Bruno Kone, porte-parole du gouvernement, avait fait la déclaration suivante en janvier 2017. Nous avons les moyens de bloquer l'accès à Facebook, mais nous ne le ferons pas. Nous allons sensibiliser les utilisateurs et si ça ne marche pas, nous allons prendre dans l'avenir des restrictions sur l'accès à certains sites comme le font d'autres pays. Des exemples de blocage des réseaux sociaux sont faciles à trouver. La Gambie, le Gabon, le Tchad, la République du Congo, l'Ouganda ou même le Bénin ont eu recours à une coupure d'Internet ou des réseaux sociaux à la veille d'élections. L'histoire écrite par la suite, dans tous ces cas, nous en dit long sur les véritables intentions d'une telle pratique. Aujourd'hui, les techniques et les capacités de blocage ne manquent pas. Les régimes africains ont acquis une expertise. Un blocage ciblé est souvent préféré. WhatsApp, Twitter, Facebook, Messenger ou Instagram peuvent être bloqués sans couper tout Internet. Le débat de la censure des réseaux sociaux mis sur la table, le plus important à présent est de s'organiser pour éviter que cette pratique n'existe en Côte d'Ivoire, car elle porte atteinte aux droits et aux libertés des citoyens. Et elle a une incidence sur l'activité économique du pays, puisqu'elle coûte extrêmement cher en pertes financières. Aujourd'hui, agir pour prévenir une coupure d'Internet ou des réseaux sociaux s'impose. Je reste convaincu que la Côte d'Ivoire refusera d'emprunter la voie autoritaire du blocage d'Internet ou des réseaux sociaux. Mais pour parer à toute éventualité, la société civile et les organes de presse pourraient assembler leurs forces. Par exemple, dans un projet commun, une collaboration entre les journalistes de divers médias ivoiriens. Objectif, fact-checker des propos tendancieux susceptibles de mettre en mal la paix sociale durant la période électorale. In fine, notons qu'Internet et les réseaux sociaux sont aujourd'hui intimement liés aux processus électoraux. il faut qu'il soit ouvert, libre et sécurisé pour tous afin de participer à des élections transparentes et apaisées.
Mondoblog.org. C'était le Mondoblogueur ivoirien Bonnie Ruben qui vient de nous lire un extrait de son billet intitulé « Réseaux sociaux en période électorale, les bloquer est une bêtise ». Retrouvez-le sur son blog lepetitquétinois.mondoblog.org. C'est la fin de cette émission, disponible à l'écoute en podcast sur RFI.fr, Pure Radio, Apple Podcast ou encore Spotify. Si vous aimez l'atelier des médias de RFI, donnez-nous la note maximale sur chacune de ces plateformes, ça nous permettra d'être visible et donc encore plus écouté. Écrivez-nous via les réseaux sociaux ou à l'adresse atelier@rfi.fr. Merci à Simon Decreuse qui a réalisé comme chaque semaine cette émission, ainsi qu'à Pauline Linard-Casanave qui s'est chargée de Mondoblog Audio. Rendez-vous dans une semaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.